On est aujourd'hui le lundi 25 Sivan. On est le 3 juin et le cours sera aujourd'hui pour la réfoua chez les Maï totale de Eliaou ben Miriam, de Esther bat Yehudit et Nina Chaya bat Rachel, ainsi que pour celle de Rachmuna bat Louisia et Pnina bat Louisia. Et on commence aujourd'hui notre cours sur le roi David. Un bref rappel de là où on était arrivé aujourd'hui, c'est la deuxième partie du cours commencé sur le début de la révolte de Avshalom. On ne verra pas avant l'arrêt toute la révolte de Avshalom. On est pour l'instant dans la deuxième partie du commencement de la révolte. Et la suite, ça sera quand on reprendra les cours à partir de la semaine du 16 juin. En tous les cas, on va procéder aujourd'hui comme on a commencé depuis hier. C'est-à-dire mon intervention sera un peu plus courte que d'habitude. Et pour laisser après la possibilité de poser des questions, soit ici, soit comme on a commencé à le faire avec le chat. J'avoue que Baruch HaShem, on est tous très contents de cette initiative. C'est beaucoup mieux pour tout le monde. Le cours se passe en silence, ce qui est profitable pour nous tous. Et après, le débat, les questions... Et ce qui est profitable pour nous tous aussi, surtout qu'on est très très contents, je le dis au nom de tous les élèves, on est très contents de voir s'associer, grâce à cette nouvelle initiative, de voir s'associer des gens du monde entier, c'est le cas de le dire, puisqu'un petit peu de partout vous suivez ce cours en direct. Et donc finalement, ça permet d'associer Jérusalem et quantité de points dans le monde, en France, au Canada, en Belgique, en Suisse et dans bien d'autres endroits. En tous les cas, on rappelle ce que l'on avait expliqué. On avait expliqué que nos maîtres voient dans le personnage d'Avshalom, en vertu du principe fondamental, que la Torah est le microcosme de l'histoire et que tout ce qui s'y passe, finalement, est un plan, un logiciel, le logiciel de l'histoire qui va suivre. Donc nos maîtres ont vu dans le personnage d'Avshalom une préfiguration à la révolte, la dernière révolte des nations contre Israël, la révolte qu'on appelle la guerre de Gog et Magog, de laquelle, de cette révolte, jaillira la délivrance finale. D'après notre tradition vieille de nombreux siècles, la guerre de Gog et Magog, comme on l'avait expliqué, sera essentiellement menée par le monde occidental chrétien contre Israël, après le retour d'Israël sur sa terre, lorsque finalement Édom se rendra compte que toute sa religion va s'effondrer puisqu'elle est fondée essentiellement sur le fait que Israël ne peut pas sortir de l'exil puisque Israël soit doit disparaître, soit ne doit exister que comme témoin de son crime, donc errant de génération en génération. Lorsque Israël se reconstruit sur sa terre, automatiquement c'est la gifle et plus encore, c'est le chaos le plus total donné à la civilisation de Édom, et donc c'est pour ça que dans un premier temps, ils ne vont pas trop savoir comment réagir, mais au fur et à mesure, ils s'organisent pour entamer contre nous la dernière grande révolte de l'histoire, la guerre de Gog et Magog. Donc d'une manière assez extraordinaire et étrange, nos maîtres ont vu, c'est déjà dans le Talmud comme je vous l'ai rapporté, l'allusion est dans le roi David lui-même, en faisant deux psaumes qui se suivent, le psaume numéro 2 qui parle de la guerre de Gog et Magog et le psaume numéro 3 qui parle de la révolte de Avshalom contre son père, et nos maîtres voient déjà dans les psaumes du roi David une allusion au fait qu'il y a un lien entre ces deux événements. Je suis toujours dans le résumé, parce que finalement la révolte des nations contre Israël à la fin de l'histoire est en tout point la révolte du fils contre son père, puisque évidemment, cette religion, d'une certaine manière, est une religion fils, puisqu'elle a été engendrée par Israël, mais au lieu de continuer à honorer, respecter son père, respecter sa source, finalement le fils se révolte contre son père, celui qui l'a engendré, et le met à mort, veut le tuer. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé il y a 2000 ans, lorsque la situation édomique est née, et c'est ce qui s'est passé pendant 2000 ans, et c'est surtout ce qui se passera plus fort que jamais dans cette dernière tentative du fils d'assassiner son père, c'est-à-dire lorsque le nouveau voudra une fois pour toutes faire disparaître ce que eux appellent l'ancien. À ce moment-là, la révolte de Avshalom contre David, la royauté de David, le peuple juif auquel on refuse la royauté, c'est-à-dire l'existence en tant que nation. Vous remarquerez aussi quelque chose qui est extraordinaire, que je dis déjà depuis des années, parce que ce n'est pas de moi, qu'en vérité, la véritable révolte de Édom, de Ésaü contre Yaakov, n'est pas la révolte de Ésaü contre Yaakov lorsque Yaakov est un peuple, mais la révolte de Ésaü en tant que Yaakov, en tant que la révolte de Ésaü contre Yaakov lorsque Yaakov est une nation. Ce que je dis est explicite dans la Torah. Lorsque Hachem révèle à Rivka pourquoi elle a mal dans son ventre, alors à ce moment-là, on lui dit « Ulehom milehom yehematz » « Une nation contre une nation, ils se battront » et selon l'explication connue des maîtres, il n'est pas dit « peuple comme contre peuple » mais « nation contre nation » c'est-à-dire que évidemment, même lorsque nous n'étions qu'un peuple, Édom nous a massacrés partout où on était, mais jamais, lorsque nous sommes peuple, Édom pense véritablement à nous faire complètement disparaître. Mais lorsque nous voulons redevenir un peuple, une nation, appelée en hébreu les hommes, à la différence de peuple qui se dit Am, à ce moment-là, c'est la guerre de Gog et Magog, c'est véritablement la volonté de détruire la nation d'Israël pour ne nous laisser qu'en état de peuple éparpillé aux quatre coins de la terre, mais la disparition totale de la nation. On sait que des quatre exils d'Israël, le seul qui a véritablement manifesté son désir d'enlever toute trace de la nation d'Israël, c'est Édom, puisque c'est la raison pour laquelle ils ont changé le nom de notre terre, Palestine. À l'époque, ils ont changé le nom de notre capitale, Jérusalem, chose que ni les Babyloniens, ni les Perses, ni les Grecs ont osé imaginer, parce que c'est l'insulte suprême, c'est la négation suprême, c'est une invention édomique qui va continuer dans l'histoire sous toute autre forme jusqu'à la Shoah dans notre génération et la guerre de Gog et Magog qui se passera juste avant la délivrance finale. En tous les cas, c'est le commencement. La guerre de Gog et Magog va durer très longtemps. Elle a énormément d'étapes, la guerre de Gog et Magog, et c'est absolument évident que la Shoah en fait partie. C'est absolument évident que vous savez, les guerres modernes d'Israël en font partie aussi. Mais la dernière phase de la guerre de Gog et Magog, qui est véritablement la montée réelle des nations sur Jérusalem, ça c'est encore malheureusement devant nous, on n'y est pas encore, bien qu'on le voit se rapprocher de jour en jour. Donc il y a des étapes préparatoires à la guerre de Gog et Magog, mais la véritable, celle dont parlent Yéhézkel et Zacharia, etc., cette phase-là, on ne l'a pas encore vue se produire. En tous les cas, comment dans le personnage de Avshalom, nos maîtres arrivent à voir tout ce processus de la guerre de Gog et Magog? On a commencé à l'expliquer la semaine dernière. On a surtout expliqué la semaine dernière pourquoi la révolte du fils contre le père. Évidemment, il n'y a rien de plus insupportable pour celui qui est engendré de reconnaître qu'il doit son existence à sa source créatrice. C'est la raison pour laquelle l'homme se révolte contre Dieu. C'est la raison pour laquelle les religions engendrées par le judaïsme font du judaïsme leur pire ennemi. Parce que rien n'est plus insupportable que de reconnaître qu'on doit son existence à quelqu'un d'autre, la révolte du fils contre le père. Maintenant, ça c'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Maintenant, on va rentrer plus en profondeur, bien qu'on l'avait déjà commencé, dans le personnage lui-même de Avshalom. Et vous allez voir que se dévoilent des signes tellement inimaginables que finalement la correspondance entre Édom, sa religion, et Avshalom devient une évidence qui est plus forte encore que la clarté du soleil en plein midi à Jérusalem, en été. On avait commencé à voir que le premier signe de religiosité de Avshalom, c'est qu'il était nazaréen. Il avait donc pris sur lui la Nézirut. Et quelle est la volonté d'Avshalom? De montrer que finalement, il se retire de ce monde, il n'est pas intéressé par ce monde. On va avoir un paradoxe, une hypocrisie inimaginable dans son comportement, puisque tout nazir qu'il était, tout nazaréen qu'il était, ça ne l'a pas empêché de convoiter le pouvoir. C'est très intéressant comment effectivement là aussi une religion qui a proclamé que son royaume n'était pas de ce monde est la religion qui a de toutes les religions sur terre, à celle qui a eu le plus de pouvoir, plus ou moins jusqu'à aujourd'hui, bien qu'elle est en train d'être dépassée par une autre. Mais en tous les cas, jusqu'à aujourd'hui, c'était la religion du pouvoir par excellence. On retrouve ce phénomène dans le personnage de Avshalom. D'un côté, il est nazir, ça veut dire « ce monde ne m'intéresse pas, je vis de cheveux longs et d'eau fraîche ». Mais d'un autre côté, il ne va pas hésiter à vouloir assassiner son père pour prendre le pouvoir. Comment comprendre une telle contradiction dans le même personnage si ton royaume n'est pas de ce monde? Alors pourquoi tu fais tout pour avoir le royaume dans ce monde? Il suffit de voir l'histoire de ces deux derniers millénaires pour voir qu'il n'y a malheureusement pas de contradiction. C'est le fondement même de l'hypocrisie, c'est la raison pour laquelle nos maîtres, comme on le sait, comparent cette civilisation à un porc, parce que le porc a un signe de cacheroute, les sabots qui sont fendus, c'est-à-dire qu'ils montrent ces sabots, disent nos maîtres, ils disent « Regardez, je suis cachère ». Mais en vérité, si tu fouilles à l'intérieur, tu verras qu'il ne rumine pas. À l'intérieur, il n'est pas caché. Il cache ses véritables intentions en montrant, soi-disant, une apparence de tout le contraire. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement dangereux. Et donc, ça, c'est ce qu'on avait vu. Maintenant, on continue, regardez. Vaivaldou le Avshalom shlosha banim. Avshalom a mis au monde trois fils, Uba Tachat et une fille. Et ce qui est très intéressant, Ushma Tamar, comment qu'il a appelé sa fille Tamar, du nom de sa sœur, violée par Amnon, du nom de celui qu'il a lui-même tué, assassiné, après qu'il ait volé sa sœur. Hiaita et Isha et Fatmare, c'était une très belle femme, comme d'ailleurs Tamar, sa sœur violée. Quelle est l'intention de Avshalom? L'intention de Avshalom est bien sûr de montrer toujours ce discours et surtout ce comportement hypocrite qu'il porte en lui et sur lui la souffrance de sa sœur violée. Et c'est pour ça que dès qu'il a une fille, il s'empresse de l'appeler Tamar comme pour dire que je n'oublierai jamais ce qu'on a fait à ma sœur. Et donc, comment qu'il se montre ici? On va le revoir bien sûr. Il se montre ici comme, d'une certaine manière, celui qui est le modèle de la morale dans le sens pureté sexuelle, qui a vengé l'honneur de sa sœur, qui continue à perpétuer le nom de sa sœur, c'est l'homme qui, d'une certaine manière, se bat pour les valeurs morales et spirituelles dans ce monde, et c'est la raison pour laquelle il a tué Amnon. On verra que c'est pas si évident que ça. Amnon qui représente le dépravé, le débauché, celui qui prend des filles, etc. On continue. Vayeshev Avshalom beYerushalayim shnataim yamim. Ça fait déjà 2 ans que Avshalom est revenu à Jérusalem, comme on l'a vu la semaine dernière, Upnei Ameler Lora. Mais le roi refusait toujours de recevoir son fils. Avshalom attend 2 ans, mais au bout de 2 ans, il craque. Vayishlar Avshalom el Yoav, lishloar oto el Ameler. Il envoie une missive à Yoav, Yoav qui est l'un des rares qui peut rentrer sans être convié à le faire chez David, et il lui dit « Je veux absolument que tu m'organises un rendez-vous chez mon père, c'est pas normal, 2 ans, et il continue encore à me tenir à l'écart. » Mais Yoav refuse cette shlichut, il refuse cette mission. Pourquoi? Très certainement, Yoav sait que c'est cause perdue, que le roi n'acceptera pas. « Vayomer el avadav » après avoir essayé 2 fois, à 2 reprises d'envoyer Yoav, et à 2 reprises Yoav refuse, à ce moment-là, Avshalom, l'homme qui vit en marge du monde, l'homme qui se présente comme le modèle de la pureté sexuelle, l'homme qui défend, on pourrait dire, l'honneur de la morale dans ce monde, et bien vous allez voir qu'il n'est pas si moral que ça. On a déjà vu que c'est un assassin, bien qu'on va voir qu'est-ce qu'il avait dans la tête à ce moment-là. Regardez maintenant ce qu'il fait. Vayomer el avadav, il dit à ses serviteurs, « Ah, Yoav refuse de comparaître devant moi. Re'u chelkat Yoav al yadi. » Regardez, vous voyez ici, là-bas, il leur montre par la fenêtre, c'est toutes les propriétés de Yoav, tous les champs de Yoav. Et il dit, « Mais tout simplement, allez y mettre le feu. Allez y mettre le feu. Le porc, je suis cachère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est évident. » Mais quand les caisses de l'église ou de l'État sont vides, il y a toujours des juifs à les piller et massacrer, bien sûr. Et donc, il n'y a pas de problème chez Avshalom. Il demande à Yoav de comparaître devant lui. Quand Yoav ne vient pas, pas de problème. Ruinez-le. Brûlez ses champs. Je ne sais pas comment Yoav vit avec son sens moral. Ça fait comment Avshalom vit avec son sens moral. Mais en vérité, j'ai honte de vous expliquer, parce que je sais que vous savez. La Torah est en train de nous décrire ici le modèle fondamental de celui qui se prend pour le modèle. Celui qui se prend pour le modèle devient une ordure. Celui qui pense qu'il représente la morale devient une véritable ordure. Il n'a plus de limite. À partir du moment où je pense que c'est moi qui ai raison et que mon père se trompe, comme on va le voir, tout celui qui refuse de m'aider à prouver que c'est moi qui ai raison est un infidèle, est un hérétique, il va contre la morale, il va contre la vérité. Donc il ne mérite pas d'exister. La Torah ici, plus que nulle part ailleurs, mes amis, c'est pour ça que j'insiste et je suis lourd. Il n'y a pas dans tout le texte biblique, je dis le Tanakh, toute la Bible, depuis le premier mot de la Torah jusqu'au dernier mot de la Bible, un texte qui nous montre le phénomène du fanatisme religieux, moral et spirituel autant que le personnage de Avshalom. La Torah a figé dans le personnage de Avshalom, voilà ce que devient quelqu'un qui prétend que lui, il se bat pour la morale. Il devient un véritable facho. Et donc, au nom de sa compréhension à lui de ce qui est vrai et faux, il fait ce qu'il veut. Il tue son frère, il brûle les champs à Yoav, et on continue. Vayatsitu avdei Avshalom et Chelkat Ba'esh, toutes les propriétés de Yoav sont passées par le feu. À ce moment-là, Vayav, comme Yoav, Vayav voit l'Avshalom. Yoav voit toutes ses maisons brûlées, il court vers Avshalom. Vayomer elav, lamatsitu avdei Chelkat Ba'esh. Bon, je traduis directement. Pourquoi tes serviteurs ont brûlé mes champs? Avshalom lui dit, mais je ne comprends pas. Dis-moi, c'est à moi de demander des comptes. La force de l'hypocrisie, tout de suite retourne la situation. Mais je ne comprends pas. Je t'ai envoyé deux fois des missives. J'ai attendu deux fois pour te demander de partir chez mon père. Et tu ne comprends pas. Alors maintenant, il va lui faire le grand jeu. Mais qui est brûlé, toi ou moi? Il lui dit, mais moi, je suis tous les jours brûlé. Brûlé dans mon être, brûlé dans ma dignité. Que mon père, mon papa refuse de me parler. Et moi, mon champ intérieur, mon âme ne brûle pas à moi. J'ai voulu te faire sentir ce que moi je vis. Et sois content, toi ce n'est qu'un champ qui est en train de brûler. Moi ça fait 2 ans, à cause de toi je brûle. Pourquoi? Voilà ce qu'il lui dit. La chutzpa. Il dit, pourquoi tu m'as ramené ici si c'est pour me laisser crever dans un coin sans pouvoir voir mon père? Qui est la morale ici? La morale, c'est Yoav. Parce qu'il est fort. La Torah nous montre tout le mécanisme de l'ordure. Comment qu'il est fort. Il retourne la situation, il dit, mais c'est toi qui me brûles depuis 2 ans. Et quand je crie au secours, ça brûle, tu fais semblant de ne pas entendre, mais viens éteindre le feu, présente-moi à mon père. Yoav, on le connaît le personnage, c'est un dur, un très dur, un vétéran, il a fait toutes les guerres. Yoav, on ne plaisante pas devant lui. Le temps de terminer la phrase, la tête est déjà coupée. Oui. Il est tellement déconcerté, il ne sait pas quoi répondre. Là aussi, on voit. L'hypocrisie morale est une arme tellement puissante que même un vrai guerrier, il ne sait plus quoi faire. Et cette arme, nos voisins savent l'utiliser depuis 60 ans. C'est très très fort. Ça veut dire l'art de faire passer l'agressé pour un agresseur. Mais c'est moi qui souffre, c'est pas toi. Donc moi, quand je me fais sauter au milieu de tes enfants, d'accord, c'est moi la victime, toi t'es l'agresseur. C'est un cri au secours pour que tu comprennes ma souffrance. Je suis obligé de... Voilà, regardez, c'est fort. J'ai pas d'autre moyen d'hurler ma souffrance que de te prendre tes propres enfants. C'est moi la victime, même quand je saute dans tes bus. C'est le discours d'Avshalom. Il ruine une personne, il lui dit, mais c'est moi qui brûle, c'est pas toi. Je voulais te faire vivre ce que je vis. Yoav ne peut pas croire qu'on se fout de lui. Et qu'est-ce qu'il se dit? Yoav est un vrai juif. Il se dit, ouais, je ne me suis pas rendu compte, le pauvre, ça fait 2 ans que je le fais souffrir. C'est presque s'il ne lui dit pas aussi pardon. Mm-hmm. Et bien c'est ce qu'il fait. Tout de suite, il court chez David. Pour ceux qui connaissent un petit peu le personnage de Yoav, parce que c'est un personnage dont on n'a pas trop parlé, mais si à titre personnel vous connaissez déjà, vous étudiez un jour sérieusement ces textes-là, Yoav, c'est le seul homme sur terre au sujet duquel David a dit, j'ai peur de lui. Le seul homme sur terre. Même David avait peur de Yoav. C'est-à-dire que Yoav, c'est un tueur. Yoav devient tout petit minus devant le fils rejeté de David, alors qu'il n'a même pas peur du roi David. Pourquoi? Pourquoi il s'annule? Parce qu'il est déconcerté par l'hypocrisie. Et les ennemis d'Israël, ici Avshalom agit comme un ennemi d'Israël. Les ennemis d'Israël connaissent, comme je l'ai expliqué des milliers de fois, le point faible d'un juif. Fais sentir à un juif qu'il est coupable, même si c'est faux, tu l'as dans sa poche. C'est comme ça. Avshalom connaît le point faible du caractère des Juifs. Même Yoav, ben, c'est ce qu'on voit dans notre pays, d'accord, les plus grands officiers d'Israël, les héros d'Israël, quand on a su comment leur parler le langage de la culpabilité, ils ont fondu les uns après les autres. Sans guerre n'est pas arrivé à faire ce qu'un mot de soi-disant paix est arrivé à faire. Il ne porte pas son nom pour rien, Av Shalom, le père de la paix. Peut-être une préfiguration à tellement d'autres choses à notre époque, puisqu'on est dans la Torah, elle englobe toutes les générations dans un personnage. On continue. Et donc, il lui dit, « T'aurais mieux fait de me laisser en Chutzla Aretz, ça me faisait moins mal que d'être là maintenant, c'est toi qui es fautif de ma souffrance. » Yoav demande pardon, tout de suite il s'en va chez David. Vayavo Yoav el Ameler, Yoav arrive chez le roi, Vayagedlo, il lui raconte la souffrance de Avshalom, et David, c'est un vrai juif lui aussi, donc forcément, il fout. 2 ans il a tenu, mais quand il entend que son pauvre fils souffre, alors qu'il avait sans doute de bonnes raisons de le tenir à l'écart jusqu'à présent, c'est quand même un assassin, un assassin. Mais là il craque. Va y créer l'Avshalom, il appelle Avshalom. Non, j'ai oublié dans le verset d'avant l'essentiel. Avshalom lui dit à Yoav, je veux que tu demandes au roi de m'accepter. Pourquoi? Parce que je veux parler avec lui. Je veux faire valoir mes droits. Je veux qu'il se rende compte qu'il a tort de se comporter comme ça à mon égard. Ve'im yeshbi avon ve'amiteni. Je vais lui prouver que je ne suis pas, que je n'ai pas fauté en tuant mon frère et que donc je ne mérite pas de mourir, je ne mérite pas son comportement. Ça veut dire que la véritable raison pour laquelle Avshalom veut rencontrer David, c'est pas seulement, écoutez bien, parce qu'il veut voir son père. Non! Il veut rentrer en victoire, il veut qu'on lui donne la possibilité d'expliquer chez Enbi Avon que je n'ai rien fait de mal. Les commentaires disent, d'accord, Rotselomar Veroti Panav, je veux le voir. Pourquoi? Ashiva Marim, Alma Arakti et Amnon, je veux qu'il arrive à comprendre pourquoi j'ai tué Amnon. Ve'im Afalpiken Yimatse Biavon, Kilo Ikabel Amaraï, j'aimerais bien voir si une fois que j'aurai exposé ma version des choses devant mon père, devant le roi, il trouvera encore quelque chose à me reprocher. C'est ce qu'expliquent tous les commentaires. C'est-à-dire que Avshalom est sûr et certain qu'il va pouvoir convaincre David qu'il avait raison de tuer Amnon. On y va, on continue. Il arrive devant David, il commence à vouloir parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Vaishtachulo apav, il se prosterne devant, le signe de politesse devant un roi, même quand on est fils du roi. Il se prosterne devant le roi. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vaishak ameler le'avshalom, David se contente d'embrasser son fils. Pas un mot, pas une explication. Et Avshalom s'en va. Et tout de suite après, on nous dit, Vayacharechen, et ce fut après cela, et là va commencer toute la révolte. Ça veut dire que jusqu'à présent, Avshalom n'avait pas en tête de se révolter contre son père. Ou disons que il n'en était pas forcément conscient, bien que, comme je vous l'expliquais, il avait déjà un plan de royauté qui avait commencé depuis fort longtemps, mais pas forcément en passant par la révolte contre un père, ça peut être très bien tout après la mort de son père. Mais, à partir du moment où, quand il comparaît enfin devant son père se contente de l'embrasser, de ne pas dire un mot, et de ne pas le laisser s'exprimer, se justifier, à ce moment-là, on continue. Pour l'instant, je ne fais que lire. Après, comme on a l'habitude de le faire, je ferai un résumé, une synthèse, une explication de tout ce qu'on voit. Avshalom prend très 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 mal le fait que son père lui a fait soit l'affront de ne pas le laisser se justifier, soit, ce qui va finalement prendre le dessus, je vous fais le résumé des commentaires, ce qui va prendre le dessus dans la pensée d'Avshalom, mais si après tout mon père n'a pas voulu parler avec moi, c'est que très certainement, comme on dit dans la Gemara, Shtika ke Oda, c'est la thèse de Rashi. Rashi dit qu'il interprète le fait qu'il l'a embrassé, Miklal de Neshika Mechila Ma'aliutaish. Il interprète, et ça c'est une grave faute de la part de David, il interprète, David avait mal compris tout ce qu'il y avait derrière son fils, que si mon père m'a embrassé et n'a pas voulu parler, c'est qu'il estime qu'il n'y a pas lieu de se justifier. Tu as raison, mon fils, j'ai enfin compris, tu as raison. Mechila ma'aliyuta'i, il m'a complètement pardonné. Ma'aliyuta dans le sens que c'est un pardon total. Donc, qu'est-ce qui se passe? Avshalom continue à sombrer dans sa déchéance pseudo-morale, où il s'est créé tout un film du justicier. Il dit, ben oui, qu'est-ce qu'il y a plus grand aveu? J'ai envoyé Yoav pour dire à mon père que je voulais parler avec lui pour lui faire comprendre que j'avais le droit et le devoir de tuer Amnon. Et tout ce qu'il trouve à faire, c'est de m'embrasser. Shtika keoda, donc j'ai raison. Maintenant, commence la révolte. Vayima acharechen, tout de suite après. Vayaslo Avshalom Merkeva. Avshalom se fit un Merkava, un chariot magnifique. Vesusim, tiré par de très beaux chevaux. Vechamishim Ishratsim Lefanav, avec 50 hommes qui couraient constamment devant lui. Ça veut dire cela, je vous l'explique. Pour un homme qui est nazir, donc il commence maintenant petit à petit à montrer qu'il cherche le pouvoir. Il se fait un char, des hommes qui courent devant lui, chose qu'on ne fait que devant un roi ou devant véritablement un homme de pouvoir. Jusqu'à présent, c'est pas du tout un homme de pouvoir, c'est le fils du roi, mais c'est pas du tout un homme de pouvoir. Donc il commence à faire ce genre de signe. Il commence doucement. Il attend de voir la réaction de son père. Son père ne réagit pas. Son père ne réagit pas. Il prend ça comme un signe que son père accepte de voir en lui le futur roi d'Israël. Il tâte le terrain. Pourquoi David se tait? Je vous laisse deviner, mais je vais le dire un petit peu sans expliquer plus. Pourquoi David se tait depuis le départ? Pourquoi David s'est tu quand Avshalom a tué Amnon? Pourquoi il s'est tu? Pourquoi? Bien sûr. Pourquoi David se tait quand Avshalom lui fait savoir « Je veux discuter devant toi » Pourquoi David se tait lorsqu'il voit son fils manifester les premiers signes d'une volonté de prendre le pouvoir? Pourquoi se tait-il? Parce que David est brisé. David est cassé. David sait que tout ce qui lui arrive, c'est ce que le prophète Nathan lui avait dit qui arriverait. De ta maison, je te ferai payer ce que tu as fait. De ta maison sortira le mal. Et donc quand il voit toutes les catastrophes qui lui arrivent, un fils tué, une fille violée, un fils Avshalom qui se prend pour je ne sais quoi, David n'a pas les mots, n'a pas la force, il ne sait pas comment répondre. Il ne sait pas comment faire. On peut imaginer que David est dans un état de hitbo des doutes extrêmement profond, ça veut dire de repli sur soi. Une sorte de dépression, vous savez, quand un homme est en dépression, en majber, il se replie sur lui-même et il n'est plus à même d'avoir les mots qu'il faut, les réactions qu'il faut. Même si c'est un homme extrêmement intelligent et même extrêmement héroïque et extrêmement guerrier, comme David, dans une situation de culpabilité, l'homme perd ses moyens. Et la Torah est en train de nous décrire ici que David a sombré dans une forme de dépression énorme, sentiment de culpabilité que finalement, David n'arrive pas à se relever du fait qu'à cause de lui, il a déjà perdu un fils, Amnon. Il a déjà enterré moralement une fille, Tamar. Il a enterré affectivement pour l'instant, puisqu'il ne le considère plus comme son fils, Avshalom. Et il n'arrive pas à s'en remettre. Et donc il est en état de dépression. Nos maîtres font allusion à ce que j'explique, c'est bien sûr pas de moi, en disant qu'après la faute de Bathsheba, Shisha Chodashim Nitzara. David a été frappé pendant 6 mois de tsara'at, on n'a pas besoin de traduire, de cette maladie nafshique, psychologique, que le Zohar appelle Zgira Vestima Dechol Aneurim, le bouchon, la fermeture de toutes les lumières, ce qu'on appelle en français la dépression. Il broie du noir. David est rentré dans un état de dépression inimaginable et il n'est plus à la hauteur dans rien. N'étant plus dans la hauteur dans rien, qu'est-ce que va faire le méchant fils Avshalom? Au lieu de comprendre que son père souffre et son père est dans une dépression profonde de voir ce qui arrive dans sa famille, qu'est-ce que va conclure Avshalom? Il est sénile, il est plus à la hauteur, il est temps que je le remplace, j'aurais pu attendre sa mort, mais je vais un peu précipiter les choses parce que le peuple ne peut pas avoir un tel sénile à sa tête. Au lieu de se dire non, c'est sa souffrance morale qui fait qu'il est maintenant affaibli. Non. Et lui, il prend ça tout simplement sur le fait qu'il n'est plus du tout à la hauteur Nekuda. Et d'ailleurs, on va savoir s'il l'a été un jour. S'il avait été à la hauteur, il n'aurait pas pris Bathsheba, etc., etc. Et on continue. Deuxième volet, voyant que son père ne dit rien lorsqu'il commence à manifester des signes de pouvoir, maintenant il va faire quelque chose de beaucoup plus grave aux yeux de tous, et son père, une fois de plus, ne va rien dire. Vishkim Avshalom, Avshalom maintenant se lève de bonne heure le matin, c'est une expression qui veut dire que c'était sa préoccupation dès le début de la journée. Ve'amad aliyad derrachar, et il s'est installé, il a ouvert un office à côté du grand tribunal. Sha'ar, c'est le tribunal dans toute la Torah. La porte, qui signifie le tribunal en hébreu biblique. Pourquoi le tribunal s'appelle la porte? Parce que c'est par cet endroit qu'on rentre vraiment dans une société. Si une société n'est pas fondée sur la justice, alors il n'y a pas de société possible. Donc la porte qui permet de construire une société, c'est la justice, le tribunal. C'est l'une des raisons pour lesquelles le tribunal s'appelle la porte. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un grand tribunal à son époque, d'accord? Mais le tribunal est sous la haute responsabilité du roi David, comme on le sait qu'à partir du roi David, le tribunal lui-même est géré d'une certaine manière par le roi, qui a lui aussi pouvoir de justice, il exerce la justice, et surtout il exerce la justice selon le principe de Dina de Malchuta. Dina, c'est pour ça qu'il y a un lien entre le tribunal et le roi, comme je l'ai expliqué dans l'autre cours. Le tribunal juge d'après les lois de la Torah, mais à l'époque d'un roi, le tribunal est lui-même soumis au roi, en ce sens que le roi, selon le principe de Dina de Malchuta Dina, qu'il a été donné au roi la possibilité de juger en fonction de ce qu'on appelle Horat Sha'a, du besoin du moment, même si ça ne correspond pas forcément à ce que la Torah dit, parce que la Torah a une vision, on pourrait dire, d'éternité, mais des fois il faut être capable de juger par rapport au moment précis, et ça c'est la force qui a été donnée au roi. Qu'est-ce qu'il fait, Avshalom? Il installe son bureau, son office, à côté du tribunal. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va devenir maintenant le démagogue né. Vaï'i kol ha'ish asher yelorive, lavo et la meler. Toute personne qui avait un problème et qui voulait comparaître devant le roi, c'est-à-dire lui, il ne s'occupait pas de ceux qui voulaient le tribunal toraïque, parce que justement, lui veut faire valoir que lui aussi a le droit de juger selon le Dina de Malchuta. Et donc, à chaque fois qu'il entendait qu'une personne réclamait d'être reçue par le roi lui-même, parce qu'il estimait que son problème ne peut être traité que par le roi lui-même, qu'est-ce qu'il faisait? Vaïkra Avshalom Elav, Avshalom allait le faire chercher. Et il commençait son grand jeu démagogique de grand sauveur de l'humanité. Vayomer, et il lui disait, Imezeir Ata, de quelle ville es-tu? Les commentaires font comprendre qu'il commençait à lui montrer qu'il s'intéresse à lui. De quelle ville es-tu? C'est pas seulement de quelle ville es-tu, de quelle tribu es-tu? Ton métier? Tu es marié, tu as des enfants, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, etc. Ça veut dire le grand jeu du dirigeant qui descend dans le peuple, qui rentre à l'improviste dans un village et qui s'assoit pour manger la soupe populaire. Ça veut dire qu'il commence à montrer qu'il est très 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 proche de son peuple, lui. Et il profite d'une manière hypocrite et cruelle de la dépression dans laquelle se trouve son père. À cette époque-là, effectivement, son père ne recevait presque plus personne. Son père s'était replié sur lui-même. Son père souffrait la souffrance de sa punition et de sa faute. Ce qui est d'une certaine manière l'attitude d'un juif qui veut réparer ce qu'il a fait de mal. Mais d'un autre côté, c'est vrai que David en même temps est roi. Donc c'est une lame à double tranchant. Parce que tu fais tes chouvas, tu te retires un petit peu du royaume. Ça c'est bien en tant qu'individu, mais tu es roi d'Israël aussi. Tu as des responsabilités. Avshalom surfe sur l'absence de David. La nature, surtout celle des méchants, a horreur du vide. Et comme les gens qui voulaient comparaître devant le roi, à cette époque-là, n'étaient pas vraiment reçus, n'étaient pas vraiment pris en charge, qu'est-ce qu'il fait lui? Il a fait le grand jeu. C'est-à-dire que vous allez trouver en moi quelqu'un qui s'intéresse vraiment à vous. Et regardez ça. Il commence à poser des questions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Pourquoi tu es là? Quel est ton problème? Non, d'abord, dis-moi qui tu es. Vayomer, et la personne répondait, Me'achat shifte Israël avadecha. Je viens d'une des tribus d'Israël. Le Malbim fait remarquer quel rapport entre la réponse et la question. Il lui demande, de quelle ville es-tu? Et lui, il lui répond, je viens de telle tribu. Le Malbim dit qu'en vérité, Avshalom avait tout un plan. Vous savez, les tribus se reconnaissaient à cette époque-là et pendant fort longtemps, les 12 tribus d'Israël, bien que à l'époque du roi David réunis sous un seul drapeau, celui du roi David, malgré tout, les tribus d'Israël étaient dans beaucoup d'aspects très différents les unes des autres. On apprend beaucoup plus tard dans la Bible que même la prononciation de l'hébreu n'était pas la même d'une tribu à une autre. J'imagine qu'ils avaient aussi certains folklores, certaines coutumes, certains habits particuliers qui différenciaient les juifs du Galilée des juifs du Darom, ne serait-ce que pour des questions climatiques, etc. etc. Les uns sont des montagnards, les autres sont plus des gens qui vivent proches du sable et du désert, le Negev, ou etc. Et donc, on repérait vite celui qui est de la tribu de Zvouloun, celui qui est de la tribu de Issachar. Issachar, c'est des hommes de Torah, Zvouloun, c'est des commerçants, etc. etc. On les reconnaissait dans la manière de s'habiller, dans la manière de parler. Qu'est-ce qu'il faisait, lui? Il s'arrangeait toujours pour envoyer ses messagers aller chercher quelqu'un qui voulait se faire recevoir par le roi, mais surtout lorsqu'il s'agissait de quelqu'un d'une autre tribu. Et qu'est-ce qu'il essayait de leur faire comprendre? Et ça, vous imaginez, de la part d'un fils, au lieu de dire, oh, bon fils, tu sais, le roi ne peut pas te recevoir en ce moment, il n'est pas bien. Il essaie de lui faire comprendre Bérémès. Si tu avais été de la tribu d'Yehuda, tu aurais eu plus de chance. Mais Zevouloun, tu n'as aucune chance, tu perds ton temps, parce que le roi, il est de la tribu de Yehuda. Et donc, c'est pour ça qu'il répondait, je suis de la tribu de Zevouloun, par exemple. C'est-à-dire, je suis très étonné de voir en toi, Avshalom, de la tribu de Yehuda, fils du roi David, de trouver en toi une telle oreille, un tel cœur. Quoi, tu t'intéresses à une autre tribu que la tienne? Parce que nous, tu sais, comme on a été reçus par le roi, on se posait la question, est-ce que vraiment il est encore le roi de tout Israël ou le roi de sa tribu uniquement? Et lui, il surfait sur ça, et regardez ce qu'il disait. Vayomer elav Avshalom, quand il sentait que la personne pouvait croire que la raison pour laquelle il n'avait pas été reçu, c'est parce qu'il était d'une autre tribu que celle du roi, il répondait, Re'e dvarecha tovim, oh là 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 là. Quand on vient comme toi avec des arguments aussi forts, aussi justes, aussi bons, ou nechochim, aussi bons et aussi justes, ou shema en lecham et ameler, tu perds ton temps chez le roi, personne ne t'entendra, tu n'es pas de la bonne tribu. Il commence à préparer le complot, il commence à préparer la révolte, toujours en profitant de l'absence de son père. Et il commençait à créer autour de lui des dizaines, des centaines, des milliers d'hommes et de femmes qui, dans les moments de détresse, dans les moments où on vient pour se faire juger, parce qu'on se sent opprimé, on se sent agressé, on se sent volé, et qu'on ne trouve pas une oreille qui t'entend, et que vient une oreille hypocrite qui dit « Moi je suis là pour toi, moi je suis là pour t'entendre », vous imaginez comment Avshalom était en train, d'une manière démagogique, de se créer un nom dans tout le pays. Et ça a commencé à lui monter à la tête. Et regardez maintenant ce qu'il dit. Vayomer Avshalom, mi esimeni shofet ba'aretz. Qui peut comprendre que s'il y a un juge sur terre, ça ne peut être que moi? Après s'être présenté Naziré 1, après s'être présenté grand moralisateur, etc., l'histoire de Tamar, maintenant il se présente comme le grand justicier. Moi j'ai le sens de la justice. Moi je sais exercer la justice. Regarde, tout Israël vient vers moi pour se faire juger. Mi esimeni shofet baretz ve'ala yavo kol ish. Tout Israël doit venir vers moi. Asher yelo riv u'mishpat v'zdakiv. Car seul moi je sais rendre vraiment la justice. Et maintenant, il va pousser encore un petit peu plus loin. Ses cheveux longs font sentir à tout le monde, c'est un homme qui n'est pas intéressé par les choses de ce monde, donc on est en confiance, c'est pas un homme de ce monde. Le fait qu'il a une fille qui s'appelle Tamar rappelle à tout le monde que c'est un homme extrêmement propre sur le plan sexuel, puisqu'il a lutté contre la perversion sexuelle. Eh bien, c'est un saint.
dit d'une autre manière. Le fait que quoi, qu'il s'intéresse à tous les opprimés, tous les malheureux, on voit en lui celui qui recherche la justice. On l'imagine au milieu de tous les opprimés, tous les malheureux, etc. autour de lui, Av, Shalom, le chevelu. Très bien. Mais maintenant, il manque encore une case pour terminer la falsification. L'amour. Il faut aussi que je sois le modèle de l'amour. Et regardez. Il a commencé à devenir un homme de pouvoir. Tout le monde, maintenant, on n'allait même plus chez le roi. Quand il y avait un problème, on allait directement chez Avshalom. Le roi, il ne s'intéresse pas au peuple, le roi. Le roi, il est dans sa tour d'ivoire. Personne ne sait que le roi pleure du matin au soir. Mais non, le roi, c'est un orgueilleux. Un pharisien, je ne sais pas, un truc comme ça. Alors, heureusement qu'on a Avshalom. Et les gens venaient vers lui maintenant, mais c'était quand même le fils du roi. Donc on se procédait devant lui. Qu'est-ce qu'il faisait Avshalom ? Vashlaret yado. Quand il voyait quelqu'un qui voulait se procéder devant lui, il disait, mais non ! Verziklo, il le tenait. Surtout ne te prosterne pas devant moi, mon fils. Venashaklo, et il l'embrassait. Nous sommes tous les fils du Dieu vivant. Vous avez vu comme il nous traite. Nous les malheureux, les opprimés, comme il nous aime. J'aurais bien voulu voir si le roi David, lui, il aurait pas voulu qu'on se passionne devant lui. Il construit l'image du Sauveur. Nos maîtres ne se sont pas trompés lorsqu'ils ont vu en lui Gog. Dans tous les sens du mot Gog, y compris celui dont on parle maintenant. C'est Gog, le fils qui va se révolter contre son père. Le fils qui va nier d'où il vient. Au point qu'un jour, quand on leur dira, vous savez, celui que vous vénérez était juif. Mais non, c'est impossible, il n'a jamais été juif, c'était un celte. Sur 2 milliards de croyants, 1 milliard 900 millions pensent qu'il n'a pas été juif. C'est une invention. Ils sont quelques centaines de milliers dans le monde à savoir que ses origines étaient juives. Bien sûr, absolument. Et donc, l'amour. C'est la dernière chose qui lui manquait. Et quand il a installé, il a construit sa personne sur ses piliers. Je ne suis pas de ce monde, mes cheveux longs. Je suis un saint, Tamar. Je suis toujours du côté des opprimés, la justice. Et en plus, je suis l'homme de l'amour. Ça y est, ils ont trouvé leur modèle. On va pouvoir se révolter contre Israël, contre le vrai Israël, celui représenté par le roi David. On va se révolter. Et c'est ce qui se passe. On continue. Je ne sais pas si j'ai besoin de commenter plus, de toute façon, puisque tout y est déjà dans cette lecture, corps à corps, verset, verset. Mais après, je ferai une petite synthèse quand même. Je n'ai pas encore vu. Et maintenant, regardez. Vayas Avshalom kadavarazé. Avshalom continua ce mensonge et cette démagogie. L'Echol Israël, au point qu'il arriva à conquérir tout Israël. Tout Israël, c'est bien de le dire, c'est qu'une grande partie d'Israël, parce que heureusement David ne va pas perdre une partie lui aussi importante d'Israël. Sachant que Israël va se scindre en deux, les anciens et les nouveaux. Asher Yavou les Mishpat, elle a mêlère, au point que tout celui qui avait un problème qu'il devait présenter au roi, Vaïganev Avshalom et Lev Anche Israël. Avshalom a volé le cœur d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'il a su parler à leur cœur. Le langage de l'amour, le langage de la justice, le langage des opprimés, c'est un langage qui est facile. Surtout quand on peut présenter le méchant comme étant le méchant. En se gardant bien d'expliquer quelles sont les raisons qui font qu'il a tel ou tel problème aujourd'hui ou hier. On continue. Et regardez maintenant. Vaïm iketz arbaïm shana. Et ce fut au bout de 40 ans. Vayomer Avshalom el Ameler. Encore deux versets, parce que quand va vraiment commencer la révolte, on va s'arrêter. Ça sera pour eux. Dans quelques temps. Au bout de 40 ans, on va voir qu'est-ce que dit le commandant. C'est quoi les 40 ans? C'est pas ses 40 ans à lui, il n'avait pas 40 ans. Au bout de 40 ans, Avshalom vient chez le roi et lui dit: laisse-moi maintenant partir à Hebron, car je veux accomplir mon vœu à Hebron. Quel était mon vœu ? Parce que j'avais
fait un vœu lorsque je m'étais enfui après la, après le problème avec Amnon. J'avais fait un vœu que si un jour je reviens à Jérusalem et que j'arrive nouveau à vivre normalement à Jérusalem, alors j'irai à Hébron pour remercier le maître du monde. Pourquoi Hébron? Alors genre, parce que Hébron, c'est la ville dans laquelle a commencé l'histoire d'Israël. Abraham est à Hébron, Israël, Jacob, c'est là où tout a commencé. C'est là où sont enterrées aussi les racines d'Israël. Donc David, qui est trop préoccupé par lui-même, n'arrive plus à entrer dans les subtilités criminelles de son fils. Qu'est-ce que David comprend? Bah, mon fils, c'est normal, il veut remercier Hachem, il va à Hébron, qui est l'endroit de la source. Il y a aussi une allusion terrible. Genre, ne te méfie pas de moi, mon père, hein, parce que moi, je sais quelle est la source. Hein. Moi, je la connais, la source. Je ne me révolte pas contre la source. Avant de dire, pourquoi il choisit Hébron? Dit le Malbim, parce que Hébron est la capitale de la tribu de Yehuda. C'est aussi l'endroit où David a régné avant d'aller à Jérusalem. Pourquoi il veut aller à Hébron pour déclencher la révolte? Parce qu'il veut ramener avec lui aussi la tribu de Yehuda. Jusqu'à présent, il a travaillé sur les 11 autres tribus. Il lui reste qu'une seule tribu à ramener, la tribu d'Yehuda. Et c'est ce qu'il fait. Maintenant, je vous dis directement la suite pour terminer la lecture. Il va à Hébron. Il a préparé avec lui quantité de gens qu'il a formés à la démagogie, qui se répartit partout dans le territoire de Yehuda et qui arrive à convaincre Yehuda de se joindre à lui dans la révolte qui va démarrer à partir de Hébron, et surtout qu'il a une arme avec lui inimaginable. Il est arrivé à amener avec lui le grand, l'immense, le tristement célèbre Achitophel. Achitophel, le grand conseiller, compagnon, ami intime du roi David, celui sur lequel la Torah dira dans quelques versets que quand il... Non, on l'avait déjà dit, je crois, que quand il ouvrait la bouche, c'est comme si c'est Hachem qui parlait. C'est-à-dire du sans faute, c'est comme la parole d'Hachem sur le mont Sinaï, un géant de Torah, un géant de conseil, un modèle dans tout, à tous les niveaux. Choisi par David, on peut imaginer que ce n'est pas n'importe qui, celui qui est, comme David le dira dans les psaumes, son seul et unique confident, c'est Achitophel. Il est arrivé à tourner Achitophel et l'amener à sa cause. Et Achitophel se promène partout dans les villes de Yehuda pendant que David croit que son fils est en train de servir Dieu à Hébron. Il dit, regardez, je suis passé du côté d'Avshalom. Et quand les gens voient Achitophel, qu'est-ce qu'ils vont dire? Pour la petite histoire, ça on le verra plus dans les détails ensuite. Pourquoi Achitophel a tourné Kazakh? Parce qu'Achitophel était l'oncle de Bathsheba. Et toujours Bathsheba. Et quand il s'est passé ce qui s'est passé avec Bathsheba, Achitophel mais a attendu son heure pour le faire payer très cher à David. Et quand il a vu Avshalom qui pouvait être l'instrument de sa vengeance, il a suivi Avshalom parce qu'il avait des comptes lui personnels à régler avec David. N'empêche que David dira dans les psaumes, pendant des années, t'as continué à me faire croire le grand jeu de l'amitié jusqu'à la mort, alors que depuis des années, tu préparais contre moi cette révolte. Achitophel, t'es une ordure plus grande que moi. Parce que moi, quand j'ai fauté, je ne l'ai pas caché, j'ai porté le deuil, j'en suis même tombé en dépression. Ce qui a permis à mon fils de surfer sur mon absence et de comprendre pourquoi j'étais déconnecté, au lieu de pleurer avec moi et de m'aider à m'en sortir. Moi, la différence entre toi et moi, c'est que moi j'ai fait une grave faute, entre parenthèses. Mais moi, j'ai pas joué la comédie. Toi, t'as été capable pendant des années, alors que tu me haïssais, de continuer à te faire passer pour mon seul et unique ami sur terre. Eh bien, sache que pour ça, tu as signé ton éternité. C'est le seul, l'unique des grands, grands, grands maîtres d'Israël sur lequel nos maîtres disent qu'il n'a pas de part au monde futur. Mais il y a Doeg aussi, c'est la même race. Achitophel et Doeg. Mais Achitophel, Doeg n'a jamais été un immense. Mais Achitophel, c'était un immense. En plus, ça a été vraiment... Beyachad Namtiksod. Vous qui connaissez les psaumes par cœur. Beyachad Namtiksod. Il n'y a qu'avec toi que je partageais mes secrets, dit David dans les psaumes. Et jusqu'à la révolte, tu m'as fait croire que tu étais mon ami. Ça a été, disent nos maîtres, l'un des coups les plus fatals qui a tué David, plus encore que la révolte de son fils. Pourquoi ? Parce que quand il a vu que jusqu'à là, la révolte pouvait aller, à ce moment-là, son cœur a commencé à s'arrêter. Comme on le sait, David est mort d'un arrêt cardiaque, d'un refroidissement du corps, comme on le voit dans cette Mishnah Haftarah, lié à un mauvais fonctionnement du cœur à cause de tous les coups qu'il a pris dans son cœur. Et le coup le plus fatal qu'il a pris dans son cœur, c'est pas la révolte d'Ahitophel, mais ce qui lui a encore fait le plus mal, c'est l'hypocrisie. Des années, tu as été capable de continuer à être mon confident. Tu aurais dû me dire dès le départ, roi d'Israël, avec tout le respect que je te dois, d'accord, j'accepte pas ce que tu as fait avec Bathsheba, prends-en un autre. Le caraclou, on va prendre ta retraite, Asma. Tu sais très bien que je ne l'aurais pas tué de toute façon. J'ai jamais levé mon ongle sur un juif dans toute ma carrière. J'ai jamais fait de mal à un juif. Donc je n'aurais rien fait. D'autant plus que ton comportement est justifié, tu as le droit de m'en vouloir. Mais ça, je ne te pardonne pas. En tout cas, voilà comment les choses se produisent. Maintenant, avant de passer aux questions, il nous reste 5-10 minutes. Il faut comprendre maintenant le point suivant qui est, d'une certaine manière, la clé de toute cette affaire-là. Comment Avshalom, bien que j'ai répondu indirectement à la question que je pose, mais c'est pour mieux asseoir tout ce qui s'est dit, comment Avshalom peut-il imaginer un seul instant qu'il peut parler devant son père et lui le convaincre qu'il avait le droit de tuer Amnon, au point que quand son père s'est contenté de l'embrasser, cet idiot a pris ça comme un aveu qu'il avait lui raison et que finalement donc j'ai bien fait de tuer mon frère, ce qui l'a poussé après à commencer ouvertement à vouloir prendre le pouvoir, ce qui l'a poussé à se présenter comme un justicier, comme le modèle de la justice, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, apparemment, ça ne commence pas. Avshalom n'avait pas le droit de tuer Amnon. C'est impossible. Où il a trouvé dans les lois de la Torah qu'on peut tuer Amnon ? Mais le problème, c'est que lui, c'est dès le départ, je vais répondre deux réponses, une pshat, bien que très profonde, et une plus profonde encore. Première réponse, pshat profond, il est, dès le départ, il s'est posé comme étant... Non, comme étant une essence de roi. Et comme le roi a effectivement le droit, d'une certaine manière, de se créer une justice complémentaire, pour ne pas dire parallèle, à celle de la Torah, c'est-à-dire que dans les endroits où la Torah ne donne pas la possibilité au juge de juger, le roi a le droit, lui, en fonction de son analyse ponctuelle de la situation, il a le droit d'aller plus loin que la Torah, ou d'aller moins loin, peu importe, lui se voyait déjà depuis toujours comme l'essence d'un roi. Et donc automatiquement, la raison pour laquelle il a tué Amnon, ce n'était pas parce qu'il a trouvé dans la Torah elle-même la justification à ce qu'il a fait, car c'est clair, d'après la Torah, il n'avait aucune possibilité de le faire. Mais en tant que Dina de Malchuta Dina, en tant que roi, j'ai le droit... Mon appréciation de la réalité me fait faire cette chose-là parce que j'estime que dans le contexte présent et ponctuel, une telle action de viol dans la famille royale est condamnable à mort. Le grand problème qui se pose ici, c'est quoi ? C'est que d'abord, t'es pas encore roi. Mais pire encore, t'as aucune raison de le devenir, puisque ce que vous savez pas, ce que je vous ai encore jamais dit, et ça c'est la clé de toute la compréhension, si déjà il doit y avoir un roi, selon le sens légal des choses, c'est Amnon, pas toi, puisque Amnon était le Béchor. Et tout de suite après, venez Avshalom. Dites merci maintenant au maître d'Israël, la clé qu'il révèle. Tout le cinéma que Avshalom s'est monté, qu'il faut tuer Amnon au nom de la morale et de la pureté et de la... Au plus profond de toi, c'était pour te retrouver Béchor et n'avoir plus aucun problème à être roi d'Israël. Parce que tu es le deuxième après Amnon. Amnon, Avshalom. La Torah nous révèle ici un mécanisme ô combien connu, mais qui l'aurait deviné ? Tout ce cinéma qu'il s'est monté, que Amnon mérite la mort au nom d'eux, C'est tout simplement parce que tu avais un grand problème en toi. Tant qu'Amnon est vivant, eh ben, il n'y a aucune chance que tu sois roi d'Israël. Mais si Amnon disparaissait, qui c'est qui vient tout de suite après ?
Absalom.
C'est moi. Et voilà comment il s'est monté tout un film du grand justicier.
À qui profite le crime ?
À qui profite le crime ? Exactement. Si ça avait été un autre que toi qui ait tué Amnon, à la rigueur, je veux bien. Mais attends, au nom de la royauté, tu tues Amnon, mais t'es pas encore roi. Tu le deviens éventuellement quand tu es Amnon. Mais pour tuer Amnon, il faut que tu aies une raison royale. Et tu n'es pas. C'est le chat qui se mord la queue, c'est la poule et l'œuf, lequel est le premier. Ce qui veut dire que qu'est-ce que la Torah nous montre ici ? Derrière les grands modèles de l'humanité se cachent de sales petites ordures qui tout simplement veulent prendre le pouvoir. Seulement, il y a deux manières de prendre le pouvoir sur Terre, avec une épée ou avec les cheveux longs. C'est tout. Mais c'est toujours la même chose. Soit la force, soit la démagogie. Voilà l'histoire de Amnon. Maintenant, il y a plus profond que ça encore. Sur ce que j'ai expliqué, nos maîtres vont plus loin. Et ils posent une autre question, et ça, vous allez voir, c'est la réponse au fameux 40 ans. Mais sauf col sauf, c'est quand même difficile de dire que c'est uniquement ça, puisque quoi qu'il en soit, avant de tuer Amnon, Avshalom sait qu'il ne peut pas encore utiliser, même potentiellement, le din de Dina le Malchuta Dina, puisqu'il n'est même pas potentiellement roi. Déjà, s'il était potentiellement roi, il n'a pas le droit d'utiliser Dina de Malchuta Dina, parce que seul un roi effectif peut utiliser ça. Mais disons que s'il était potentiellement roi, à la rigueur, mais il n'est même pas potentiellement roi, puisque Amnon est encore vivant, et que la raison pour laquelle il tue Amnon, c'est plutôt pour pouvoir après être au moins potentiellement roi. Donc c'est le chat qui se mord la queue, donc comment qu'il a fait, quoi qu'il en soit ? Là vient l'histoire des 40 ans. Nos maîtres disent, c'est quoi l'expression « et ce fut après 40 ans » Tenez-vous bien. Après 40 ans que le premier roi d'Israël avait été choisi à l'époque de Shmuel. Ça faisait 40 ans que Hachem, par l'intérieur de Shmuel, avait donné l'autorisation de construire la royauté d'Israël qui avait commencé par le roi Shaoul et après David. Et pourquoi il attend ces 40 ans avant de donner le signal de la révolte ? Parce que mes amis, le chiffre 40 est un chiffre fondamental, on l'a vu ce Shabbat. La fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau. Quand on veut faire disparaître toute la vieille génération pour que puisse se lever la nouvelle, on attend 40 ans dans le désert.
Oui.
Qu'est-ce que Avshalom s'est dit ? Il faut que disparaisse l'ancienne royauté pour que moi qui représente la nouvelle puisse prendre le pouvoir. Tout était calculé, même avec des notions de Torah. C'est pas un homme de la rue, Avshalom. Il a appris dans les grandes yeshivot. Il avait des grands maîtres. Il connaît tous les secrets de la Torah. Il sait comment il fonctionne. Il utilise les symboles d'Israël pour créer son mensonge. Il attend 40 ans. Et qu'est-ce qu'il dit après ? C'est la fin d'un cycle. Tout ce qui a été valable jusqu'à présent est maintenant accompli. C'est fini. On commence quelque chose de nouveau avec moi. Je suis le nouveau. L'ancien est fini. La révolte contre le Père. Sous le signe du chiffre 40, on ferme l'ancien, on commence le nouveau. Vous comprenez pourquoi nos maîtres voient là-dedans, Edom et Gog, tous les signes sont là. Des millénaires avant la naissance historique de la sélection édomique, était déjà inscrit dans la Bible d'Israël tout ce qui allait se passer dans le personnage codé du nom d'Avshalom. Et donc maintenant, ça répond à la question. Quand il n'est pas encore roi, ni potentiellement roi, comment peut-il utiliser Dina de Malchuta Dina contre son frère Avshalom ? Parce que lui se voyait lui-même comme étant le roi de la nouvelle ère. Et donc il fallait se débarrasser de tous les anciens. Et évidemment, Amnon, évidemment, fait partie des anciens, lui, c'est un pharisien. D'accord ? Mon père, bon, bah, lui, il a fini sa carrière, ça va, et lui, c'est. il est à l'époque du dieu jaloux. Moi, c'est le dieu de l'amour, le nouveau. Je veux même que quelqu'un le représente, le nouveau dieu, mais ça va être moi. Bon, ça passe par l'assassinat de mon frère, c'est pas grave. Ça passe par la destruction des biens de Joab, c'est pas grave. Ça passe par la révolte d'un père, d'un fils contre son père, c'est pas grave. Ça passe aussi par moi, le chevelu. Ça passe par le viol des 10 femmes de mon père, mais c'est pas grave, pourquoi? Mais ce sont des infidèles, des hérétiques. Que le bûcher emporte leur âme souillée. Voilà, Shalom. Il est né, le divin enfant, bien sûr. C'est ça. Vous voyez comment la Torah nous a prévenus. Vous comprenez pourquoi les Juifs, quand c'est arrivé, ne se sont pas laissés faire les vrais. Pourquoi c'est forcément les fous qui sont partis? Parce que les vrais, ils avaient déjà tous ces textes dans les mains. Seulement ces explications ont entendu des millénaires avant de ressurgir, juste avant notre délivrance finale, parce que Israël s'est tu de ce qu'il savait depuis des millénaires. Parce que quand on a la lecture de la Torah, la vraie, on ne peut pas se faire avoir par un chevelu, c'est impossible. On a donc terminé ce cours et on commence maintenant les questions. Et la première question, Eric, parle fort pour que...
C'est intéressant, la gematria de Esav, c'est Shalom.
La gematria de Esav, c'est Shalom. Donc, Av Shalom, le père de Esav. Le père de la civilisation esavique. Merci Eric. Le fait est que ce que tu dis est écrit explicitement, je l'avais complètement oublié, mais tu as le génie de retrouver un commentaire. Av Shalom, le père de la civilisation esavique. Vous vous rendez compte que tout le personnage de et le est le personnage d'Av Shalom. Vous comprenez pourquoi les Juifs sont restés tellement contre, comme jamais dans leur histoire, contre quelque chose. On n'a jamais été aussi contre ce personnage que contre n'importe quelle autre chose sur Terre. Ça nous a coûté cher depuis 2000 ans. Et pourquoi? Parce qu'on a déjà toutes les clés de lecture. Av Shalom. Attention, se présentera un jour un personnage qui fonctionne exactement comme Av Shalom. On le savait. Ça faisait déjà des siècles qu'on apprenait ces textes. Donc Av Shalom, le père de la civilisation est sabique. Oui, est-ce qu'il y a-t-il encore des questions ou on passe au chat, s'il y en a? Oui. C'est le chat.
Ouais.
En présente la personne et parle fort.
Question de maçon dans le nord de la France. Comment repérer les pervers comme Av Shalom et les empêcher de faire du mal?
Comment repérer les pervers
comme Av Shalom et comment les empêcher de faire du mal?
Je vais répondre d'abord d'une manière extrêmement simple. En ce qui nous concerne, nous, juifs, d'abord, tout celui qui vient avec une idéologie aussi extraordinaire soit-elle, mais que, conclusion, elle va contre la Torah d'Israël, d'accord, c'est un Av Shalom. N'écoute pas. Je vais donner une autre réponse un peu plus profonde. Mais celle-là, elle est extrêmement vraie et juste. Ce que je dis n'est bien sûr pas de moi. Je ne dis jamais rien de moi. Je ne fais qu'interpréter ce qui, au départ, est marqué. C'est ce à quoi fait l'allusion la Torah lorsqu'elle nous dit « Lorsque se lèvera un jour un prophète qui vous fera des signes, qui réussiront et vous dira, puisque vous voyez que je suis un vrai prophète, alors suivez-moi vers d'autres dieux, vous ne le croirez pas. Et si vous vous posez la question, alors pourquoi Hachem nous donne la force de faire de tels signes? Pour vous éprouver, pour voir ce que vous avez dans votre cœur. Pour voir si vous allez abandonner la Torah de vos pères sous prétexte que celui-là vous fait des signes, des grimaces, etc. Ça veut dire que la Torah nous a donné un critère absolu. Tu peux faire des signes, des miracles, tu peux être l'homme de l'amour, de la justice, de la bonté, tout ce que tu veux. Conclusion, on met plus les tefilines, on se circoncit plus, va te faire foutre. Les coudas. C'est tout. C'est la conclusion. Donc, c'est-à-dire que le critère est clair. Maintenant, ça c'est la réponse, on pourrait dire, légale, halakhique. Comment un juif doit fonctionner? Une réponse plus psychologique, qui tient compte, on pourrait un peu plus de la modernité de notre époque, c'est que rien n'est plus dangereux que celui qui vient avec du miel. Rien n'est plus dangereux. Et on l'a vu dans l'histoire. La Torah ne vient pas avec du miel. La Torah dit, on prend l'enfant de 8 jours, on le fait saigner. La Torah joue pas avec du miel. La Torah dit, je m'en fous, t'as fini ton travail, je m'en fous, tu arrêtes le Shabbat, tu te reposes. Il n'y a pas... La Torah est digne, la Torah est gvura, elle est aussi amour.
mais elle n'est pas démagogue, la Torah. Elle ne cherche pas à nous faire plaisir. Parce qu'aucune maman au monde a envie à 8 jours
son fils.
D'amener son fils à la circoncision. Aucune maman, il n'y a pas une mère juive qui ne pleure pas à ce moment-là. Même si elle pleure en même temps d'émotion, mais elle a mal aussi. La Torah n'est pas démagogue. La Torah dit la vérité, point. Celui qui vient avec un langage démagogue, je suis l'amour, je prends sur moi la souffrance du monde, je mourrai pour vous tous. Attends, mais calme-toi mon vieux, ça suffit, pour que tu te prends. Le miel est un poison, ce n'est pas le langage de la vérité. La vérité est dure et la vérité fait mal et la vérité n'est pas là pour nous faire plaisir. Nekouda. Donc, on a le critère. Dans l'histoire, que ce soit dans l'histoire des religions, l'histoire des idéologies, l'histoire de ce que vous voulez, je vais vous sauver, c'est forcément un mensonge. Forcément un mensonge. Regardons même Moshe, qui est venu pour nous sauver. Mais qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire? Des choses impossibles à faire pour mériter de le mériter. Prendre l'idole des Égyptiens, à leur vue, en tant qu'esclave, sans le moindre moyen de défense, et en fait, le faire mangal, le faire rôti, que l'odeur se répand partout, on jette les os par terre pour que leurs fidèles marchent dessus. Il n'est pas venu avec du miel, il n'a pas dit « croyez en moi et tout ira bien ». Il a dit « faites, mettez-vous en danger, faites-vous mal ».
Oui, monsieur.
Un sauveur comme ça, qui me dérange tellement, que 4/5 de mon être n'a pas envie de l'entendre, 4/5 ne sont pas sortis d'Égypte, ça c'est déjà au moins un critère d'authenticité, parce que s'il vient me prendre en charge, c'est forcément un imposteur. Oui.
Est-ce que les pervers, ils ont une utilité pour faire évoluer le monde? Question de la même personne.
Bien sûr que les pervers ont une... C'est le plan du monde, qui est deux chemins, celui de la vie, celui de la mort, celui de la vérité, celui du mensonge, qui est en même temps celui de la difficulté, vie, vérité, difficulté, et celui de du miel, mensonge, mort, miel. Mensonge, mort, miel, ça va toujours ensemble. Merci Eric. Le mot klipa, qui est le mot utilisé par les maîtres d'Israël pour désigner tout ce qui est faux, klipa qui veut dire écorce, mais pourquoi aussi ce mot a été choisi? Commentaire très connu. Tu décomposes le mot klipa en deux mots, kal yafé, ce qui est facile et beau. Ce qui est facile et séduisant, c'est le mal.
Oui.
C'est intéressant. Nos maîtres ne présentent pas le mal comme ce qui fait mal. Le mal, c'est ce qui fait du bien. Kal yafé. Le bien immédiat est forcément la klipa, la couverture du mensonge qui est derrière. Oui. Y a-t-il encore d'autres questions? Oui.
Oui.
Plus fort.
Le chevelu est arrivé combien de temps après à Shalom?
Comment? 500 000 ans. 1000 ans. 2 fois 500 ans à peu près. Absolument, 2 fois 500 ans. 1000 ans.
À Shalom, voulait-il faire Tchouva?
Bien sûr. D'abord, ça on le verra, ça on anticipe sur la suite. Son père l'a sauvé. Son père l'a monté du Guéhinnom. Évidemment, évidemment qu'il peut faire teshuva. Évidemment qu'il peut faire teshuva. Évidemment. C'est-à-dire, attention, lui n'a pas fait teshuva de son vivant, mais son âme a été récupérée par son père. On verra, ce sont des textes. Comme plus tard, un autre personnage qui est aussi un personnage codé qui fait allusion au même problème, au même personnage, le fameux Elisha ben Abouya, Acher, qui lui aussi mourra sans faire teshuva, mais sera récupéré, je crois, 2 siècles plus tard par qui ira chercher son âme, qui est un homme, et qui est, comment? Korar aussi, d'une certaine manière, absolument. Absolument. C'est encore un autre problème, mais ça ressemble aussi. Encore une question, s'il vous plaît, et on va s'arrêter. Il n'y a plus de questions. Alors, s'il n'y a plus de questions, eh ben, on va arrêter le cours pour aujourd'hui. Donc, de toute façon, on reprend demain cours de Chumash, et demain, dernier cours de la semaine, et dernier cours jusqu'au 16 juin.